des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille,
le philosophe de la politique.
La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Les consultations sur le projet de loi 96, c'est le projet de loi qui refait la loi 101, ont commencé, donc ces consultations, mardi. On en parlait d'ailleurs hier avec Louise Beaudoin et Louise Arel, deux anciennes ministres des gouvernements péquistes. Et mon prochain invité a aussi comparu hier en commission, c'est Guillaume Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Rousseau est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et expert en droit linguistique, donc et aussi ancien conseiller du gouvernement Legault, je pense, en matière de laïcité, si je ne m'abuse.
Exact.
Mais là, dans le domaine linguistique, vous trouvez qu'à certains égards, la loi 96 ou le projet de loi 96 ne va pas assez loin. Je pense qu'à plusieurs endroits dans votre présentation initiale, vous disiez qu'il faut aller un petit peu plus loin quand même.
Oui, effectivement. Donc, autant le projet de loi, il est quand même très vaste, là, 200 articles, et on resserre tout plein de boulons. Donc, je pense que la première des choses, c'est qu'il faut saluer le sérieux du projet de loi, sa solidité au niveau juridique, avec les dispositions de dérogation, avec le caractère supralégislatif qui va être accordé à la Charte de la langue française, la modification constitutionnelle. Donc, il y a plein de choses super intéressantes, notamment là, en matière de solidification juridique de la loi 101. Si je puis dire. Mais ensuite, quand on tombe dans les détails de quelles sont les règles qui vont venir renforcer la protection du français, c'est là où je pense que le gouvernement pourrait aller encore plus loin.
J'ai été surpris de vous voir réclamer un nouveau droit, le droit à des technologies de l'information en français. À quoi vous pensez?
Ben, en fait, le point de départ de ma réflexion, c'est de dire, autant parfois, il faut peut-être retourner à ce qui existait en 77 au niveau de l'affichage unilingue, par exemple, pour les très grandes entreprises. Donc, autant on peut parfois revenir en arrière, entre guillemets, parce que la loi de 77 était très solide. Autant, l'autre chose qu'il y a à faire, c'est de moderniser la loi 101, parce que c'est la première grande réforme depuis 1977. Donc, en 40 quelques années, il y a des choses qui ont évolué. Et par exemple, il y a beaucoup plus de technologie de l'information dans nos vies aujourd'hui qu'en 1977. Donc, on pourrait consacrer un droit à des technologies de l'information en français. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique de la loi 101, c'est que l'article 1, le français comme langue officielle, puis ensuite les articles 2 à 6, ce sont des droits linguistiques fondamentaux. Donc, le droit de travailler en français, le droit pour un consommateur à des biens, des services en français. Donc, on a des droits linguistiques fondamentaux. Puis ensuite, tout le reste de la loi, c'est des règles spécifiques ou des organismes qui sont là pour mettre en œuvre les droits linguistiques fondamentaux. Mais au cours des années, ce qui est arrivé, c'est qu'au niveau des nouvelles technologies, on a ajouté un petit article par-ci pour les logiciels, on a ajouté une petite mention là, pour s'assurer que les entreprises font des efforts au niveau langue de travail, mais il n'y a jamais eu un droit linguistique fondamental en matière des technologies qui serait pu finalement consolider la jurisprudence. Quand même, la jurisprudence a quand même fait le boulot parce qu'elle a rendu la loi 101 applicable sur Internet, mais donc pour consolider cette jurisprudence-là pour venir appuyer les différents droits et les différentes règles précises qui ont été ajoutées au cours des années, on pourrait vraiment arriver avec un droit linguistique fondamental à des technologies de l'information en français, puis ça viendrait illustrer à quel point la loi, elle est à jour, elle est modernisée là, pour les nouveaux défis auxquels fait face le français au Québec.
Donc, même si on a déjà un droit à l'accès à des logiciels en français, puis aussi à des sites web commerciaux en français, je pense que ça, c'est déjà reconnu. Vous, vous dites, il faut élargir, faut quoi? Est-ce que ça obligerait, par exemple, Netflix à fournir un contenu francophone plus riche, par exemple?
pas nécessairement, parce qu'à ce niveau-là, ça fait peut-être plus en ce qui concerne le CRTC, qui a peut-être plus en matière donc de télécommunication, qui est de compétence fédérale, c'est peut-être plus là que ça pourrait jouer. Il faut comprendre qu'à date, les droits linguistiques fondamentaux, dans la jurisprudence actuelle, les tribunaux ne leur ont pas donné une grande portée directe. Donc, c'est difficile de saisir le tribunal directement pour assurer le respect d'un droit linguistique fondamental. C'est plutôt les règles précises qui sont appliquées par les tribunaux, et les droits linguistiques fondamentaux parfois servent d'outils d'interprétation pour mieux comprendre quand une règle précise est ambiguë. Il y a différentes interprétations possibles. On va l'interpréter de manière à venir mettre en œuvre le droit linguistique fondamental. Alors, c'est plus dans cette optique-là. Mais là, justement, avec le nouveau projet de loi, on veut rendre ces droits linguistiques fondamentaux vraiment plus applicables directement. Alors, mais c'est difficile de dire qu'est-ce que ça va donner concrètement, puisque ça va être du droit nouveau, et à partir de l'adoption du projet de loi, on aura vraiment une possibilité de plaider beaucoup plus facilement ces droits linguistiques fondamentaux, qui l'ensemble des droits linguistiques fondamentaux qui existaient déjà et les nouveaux, donc auront juridiquement un plus fort degré d'effectivité, sans doute, mais ça reste à voir précisément ce que ça va donner.
Il y a un autre endroit dans la loi où vous voudriez qu'elle aille plus loin, c'est vous voulez qu'elle interdise de discriminer un employé parce qu'il ne connaît pas l'anglais, mais même lorsque la connaissance de cette langue est nécessaire pour son poste. Moi, j'appellerais ça le droit gouverneur général, parce que l'actuel gouverneur général, elle ne parle pas elle ne parle pas français, mais elle a promis de l'apprendre. Mais c'est ce qu'un employé pourrait plaider. Je ne parle pas l'anglais, ouais, mais je pourrais l'apprendre.
Effectivement, parce que un des endroits où le projet de loi est très fort, je pense, en matière de langue de travail. C'est-à-dire que là, on dit, autrement dit, le projet de loi veut mettre fin à la pratique assez répandue des employeurs d'exiger l'anglais de manière général, quand c'est pas nécessaire, sans trop se demander si on pourrait pas répartir les tâches en anglais entre différents employés qu'on a déjà, pour ne pas obliger un nouvel employé à parler anglais. Donc, à l'heure actuelle, il y a une exigence abusive de connaissance de l'anglais lors des embauches, des promotions. Donc, le projet de loi vient dire un instant, vient comme obliger chaque employeur à dire, avant d'afficher un poste pour lequel on exige l'anglais, faites une évaluation de vos besoins, faites une évaluation de la possibilité de répartir les tâches autrement avec vos employés actuels, etc., etc., qui est assez lourd. Et là, moi, je dis, ben, tant qu'à faire, aller un pas plus loin, puis ça va être plus simple pour les employeurs de juste dire, ben, finalement, embaucher les gens sans avoir cette exigence-là de l'anglais, là, sauf dans les cas très clairs où vraiment, au jour 1, il faut absolument l'anglais. Dans les cas pas clairs, les employeurs ne devraient pas l'exiger. Puis, s'ils ont besoin, ben là, qu'ils paient à l'employé le cours d'anglais, et là l'employé a comme l'obligation de le suivre, le cours d'anglais, aux frais de l'employeur. Puis s'il veut pas, là ça devient un motif pour pouvoir sanctionner l'employé si l'anglais est exigé et que l'employé veut pas l'apprendre. Alors c'est un petit peu une logique d'accommodement raisonnable. La logique de l'accommodement raisonnable, c'est l'employeur fait son effort, essaie d'adapter la règle à l'employé, l'employé doit aussi faire un effort. Donc c'est le même genre de logique, mais appliqué ici en matière de langue de travail, pour un peu le même objectif, c'est-à-dire éviter une discrimination là, fondée sur le fait de ne pas parler parfaitement anglais, par exemple.
C'est plutôt ingénieux. vous êtes ingénieux aussi sur un des sujets les plus contestés ou, disons, controversés, c'est le mot que je cherchais, dans tout ce débat là, autour de la langue, c'est les cégeps. Est-ce qu'on doit appliquer la loi 101 au cégep? Louise Beaudoin et Louise Arel, hier, me disaient qu'après plusieurs années à s'opposer à cette mesure-là, elles se sont converties. Vous dites, on a une suggestion qui va concilier l'application de la loi 101 au cégep, mais avec la préservation d'un libre choix. Expliquez-moi.
Je dirais d'un certain libre choix, parce que on comprend pourquoi c'est important d'appliquer la loi 101 au cégep. Je pense que les études de Patrick Sabourin sont très claires. Donc, les gens qui vont au cégep anglais sont beaucoup plus nombreux ensuite à travailler en anglais, à consommer des produits culturels en anglais. Donc, il y a vraiment un effet anglicisant au cégep anglais, même chez ceux qui ont fait le primaire secondaire en français. Et c'est là que l'application de la loi 101 viendrait changer les choses en dirigeant ceux qui ont fait le primaire secondaire en français vers les cégeps français. Donc, on comprend pourquoi on veut ça. On comprend l'argument du libre choix aussi, de dire ben c'est des adultes, donc on peut pas nécessairement leur imposer les mêmes règles que qu'aux enfants là pour les écoles primaires et secondaires. Donc moi j'essaie de tenir compte de ces deux points de vue là. Puis ce que je dis, c'est que bon, on peut très bien appliquer la loi 101 au cégep. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, parce que la façon que fonctionne la loi 101, c'est de dire on limite l'accès aux institutions d'enseignement anglophone à des ayants droit. Donc, le principe, c'est que tout le monde va aller à l'école ou au cégep français, sauf les ayants droit, ceux qui ont le droit d'aller à l'école anglaise, finalement. Mm. Mais une fois qu'on a dit ça au cégep, il faut les définir, ces ayants droit-là. Puis moi, ce que je mets de l'avant, puis la plupart des gens qui se prononcent dans ce débat-là ont jamais, à ma connaissance, posé cette question-là, puis encore moins apporté une réponse, c'est qui seront les ayants droit au cégep anglais?
On a tous à l'idée, et hier, Louise Arel et Louise Baudouin disaient c'est les anglophones de souche.
C'est ça. Donc, en gros, la façon qu'on les définit, c'est ceux dont le père ou la mère sont allés dans une école primaire ou secondaire en anglais. Bon, d'accord. Donc, ceux-là, on comprend. Dans le fond, ceux qui ont droit à l'école primaire, secondaire en anglais auraient droit au cégep en anglais. Donc, ça, on le comprend bien. Mais moi, je pose la question suivante. Qu'en est-il de ceux qui sont pas des ayants droit, donc essentiellement des francophones et des allophones, mais qui sont allés au cégep anglais depuis des décennies, là, puis il y en a probablement des dizaines de milliers. Est-ce que ces gens-là deviennent des ayants droit, puis surtout, est-ce que leurs enfants tous leurs descendants deviennent des ayants droit au cégep anglais? Donc, est-ce que le critère de la fréquentation du cégep en anglais devient un critère donnant droit au cégep anglais? Mmh. Moi, ce que je dis, c'est selon que vous répondez oui ou non à cette question-là, votre bassin d'ayants droit, si vous dites non, puis que votre bassin d'ayants droit, c'est juste ceux qui ont droit à l'école primaire, secondaire en anglais, qui aurait droit au cégep anglais, là, votre bassin d'ayant droit, ce bassin-là, les ayants droit ont le libre choix entre l'institution francophone ou anglophone, là, votre bassin va être plutôt réduit. Mais si vous décidez de définir vos ayants droit comme incluant ceux qui ont été au cégep anglais dans les dernières années et leurs enfants,
décuple.
Là, votre bassin d'ayants droit, exactement, ça décuple votre bassin. Donc là, il y a beaucoup plus de gens qui vont avoir le libre choix.
Et votre position, Guillaume Rousseau, votre position, c'est quoi?
Ben moi, je...
C'est de réduire le bassin ou l'augmenter?
Je pense que si on veut réalistement, à court terme, appliquer cette mesure-là au cégep et que le gouvernement puisse le faire sans qu'il y ait des manifestations, une réaction telle que le gouvernement puisse être appelé à reculer. Autrement dit, dans un monde idéal, on appliquerait la loi 101, on aurait peu au cégep, on aurait peu d'ayants droit, donc seulement les ayants droit actuels. Mais est-ce que c'est réaliste à court terme? Je pense que pour le gouvernement actuel, il n'est pas rendu là. Donc, là, à ce moment-là, moi, je suis ouvert à ce plan B, ce compromis qui est de dire, définissons peut-être un petit peu plus largement nos ayants droit, incluant donc ceux qui ont été au cégep anglais dans les dernières années. Puis, l'avantage de ça aussi, c'est que ça va beaucoup moins drastiquement réduire le nombre d'étudiants dans les cégeps anglais. Donc là, on risque moins de fermer des pavillons de cégeps anglais pour les transférer dans les cégeps français, avoir ce genre de mesure-là où, ce serait très controversé. En même temps, ce serait très bon pour le français. Donc, je me dis que par réalisme politique, tu sais, si je pense vraiment seulement en termes de politique publique pour le français, j'ai envie de dire le moins d'ayants droit possible, tout en respectant les Anglo-Québécois et leurs droits acquis. Mm-hmm. Mais si on pense en termes de réalisme politique, de ce qui est possible de faire à court terme, puis là où peut-être que le gouvernement pourrait aller, là, je pense qu'en ayant un bassin d'ayants droit plus large, c'est peut-être plus réaliste à court terme.
Autre proposition hardie, l'affichage commercial. On sait à quel point ça a déchiré le Québec dans les années 80, alors qu'en 1988, la Cour suprême, dans son arrêt Ford, a déclaré anticonstitutionnel l'affichage commercial exclusif en français. Et bon, à la suite, adoption par Robert Bourassa de la loi 178, puis ensuite la loi, si je ne m'abuse, 193, qui disait 5 ans plus tard, c'est-à-dire après que la disposition de dérogation ait eu son effet. Donc, la loi 193 disait nette prédominance du français dans l'affichage.
Ouais.
C'est ça. Vous proposez quand même de revenir à un certain affichage commercial exclusif en français.
Oui, effectivement, et c'est la fameuse phrase de René Lévesque là, qui disait « Chaque affiche bilingue dit à l'anglophone, pas besoin d'apprendre le français, et dit à l'immigrant, ici, il y a deux langues, puis on peut choisir. » Donc, c'est toujours dans cette optique-là de dire l'affichage commercial, ça envoie un message concernant les langues en usage au-delà du message commercial lui-même. Donc une fois qu'on dit ça, je pense que avec tous les défis pour le français, notamment en termes de francisation des nouveaux arrivants, je pense pas qu'on puisse complètement écarter ce débat-là qui, à mon sens, est important. Maintenant, on sait que ça a été difficile, puis on sait comment des petits commerçants anglophones tiennent à afficher minimalement bilingue et tout, donc je pense qu'il faut tenir compte de ça. Et en faisant mes recherches et en cherchant une solution, j'ai découvert un avis juridique du professeur José Verling.
Ah oui?
Début des années 90, donc au moment où justement le gouvernement Bourassa se demandait s'il allait renouveler ou pas la disposition de dérogation, le professeur Verling avait rendu un avis pour dire, depuis 88, donc dans les 4-5 années qui ont suivi Ford, la jurisprudence a évolué et le professeur Verling, déjà à l'époque, nous disait ben, peut-être finalement qu'aujourd'hui, on pourrait appliquer la règle de l'affichage commercial exclusif en français et ça passerait le test de l'article 1, donc le test des chartes de dire oui, ça porte atteinte à la liberté d'expression, mais c'est justifié. Donc déjà, au début des années 90, José Verling nous disait ça, puis surtout si on limite cette règle-là aux grandes entreprises, plutôt que de l'appliquer aux petits commerçants, on l'applique seulement aux grandes entreprises, là c'est encore plus de chances de passer le test des chartes. Donc,
mais on a du mal actuellement à contraindre ces grandes entreprises-là de se donner des raisons sociales en français. Costco Wholesale veut rester Costco Wholesale, puis c'est ça. Là. Donc, ça, c'est difficile. Mais il y a déjà de quoi dans le projet de loi là-dessus, mais je veux dire, comment on va pouvoir...
Au niveau du projet de loi, on veut déjà revenir à la nette prédominance du français, même lorsqu'il y a marque de commerce en anglais, alors que suite à l'arrêt Best Buy, un règlement là, c'est adopté sous le gouvernement Couillard, on était passé de la nette prédominance à la simple présence suffisante du français quand il y avait une marque de commerce. Donc là, on revient à la nette prédominance, même en présence d'une marque de commerce anglophone. Mais nous, on propose même là, d'aller plus loin, puis effectivement, même... Dans mon esprit, il y a toujours la question de la marque de commerce qui permet un peu de langue anglaise. Mais pour le reste, ce serait le retour à l'affichage commercial unilingue français pour les grandes entreprises. Et là, on est parti donc de l'avis de José Verling du début des années 90. Et là, on a regardé la jurisprudence depuis, donc les 30 dernières années, et ça confirme l'analyse de José Verling. C'est-à-dire que, surtout si vous limitez cette règle-là aux grandes entreprises, ça peut tout à fait être justifié parce que même si l'arrêt Ford dit la liberté d'expression commerciale, elle est protégée, comme la liberté d'expression politique, c'est vrai, mais quand vous tombez sur le test de savoir si votre atteinte à la liberté est raisonnable, ben ça va être plus facile de démontrer que c'est raisonnable comme atteinte quand c'est la liberté d'expression commerciale dont il est question, plutôt que la liberté d'expression politique. Et par ailleurs, de toute façon, comme il y a les dispositions de dérogation dans le projet de loi pour toute la Charte de la langue française, ben de toute façon, on pourrait appliquer la règle de l'affichage unilingue français et ça pourrait pas être contesté en vertu de la liberté d'expression des chartes. Donc moi, mon point, c'est de dire, on a les clauses dérogatoires, on peut le faire, puis en plus, si jamais la clause dérogatoire de la Charte canadienne n'est pas renouvelée dans 5 ans, probablement que ça passera le test des tribunaux. Alors, on a
bretelles et ceintures
de le faire.
Hein, c'est la bretelle.
Exactement.
Les bretelles et la ceinture.
Ouais. Ben,
merci infiniment pour cette comparution devant la commission là-haut sur la colline.
ça fait plaisir.
On aurait pu parler de bien d'autres dimensions de votre mémoire. Je pense, vous dites, le plus grand oubli du projet de loi, par exemple, concerne la recherche, mais ce sera pour une prochaine fois.
Bien, certainement.
Je rappelle que Guillaume Rousseau est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Et c'est tout pour nous à La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.